franceinter.fr.
À la une de la science aujourd'hui, le cyclone Pam, donc, qui vient de dévaster l'archipel du Vanuatu, situé dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, en mer de corail. Pam, un des cyclones les plus puissants du Pacifique depuis les 50 dernières années. Le réchauffement climatique serait-il responsable de l'augmentation des risques naturels? Pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec vous, Étienne Capiquian. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prévisionniste à Météo France et puis également Franck Roux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Paul Sabatier, spécialiste des cyclones et de leur formation. Étienne Capiquian, ce cyclone PAM est présenté partout comme le plus puissant qu'ait jamais connu le Pacifique. Est-ce que vous confirmez cette information déjà ?
Non, c'est un raccourci. C'est le plus puissant à avoir touché terre dans le Pacifique Sud-Ouest, en particulier sur aux alentours du Vanuatu. Mais on a connu pire en général dans le Pacifique, notamment il y a seulement un an et demi, en novembre 2013, souvenez-vous, le super typhon Haiyan qui a dévasté les Philippines était encore plus puissant que le cyclone Pam. Et puis on peut remonter encore plus loin en 1979 où on a un super typhon record mais qui est heureusement resté en mer. Donc ce n'est pas le pire, il y a eu pire dans l'histoire, mais c'est effectivement le pire qui est connu, la région autour du Vanuatu.
C'est la vitesse des vents qui distingue justement la puissance de ces cyclones ou pas?
Oui, c'est un ensemble de phénomènes, en particulier la vitesse des vents autour de l'œil du cyclone, qui peut dépasser en vent moyen sur une minute les 300 km à l'heure pour les plus puissants cyclones. Et la pression atmosphérique, donc on a une forte chute de pression au centre du système, qui peut avoisiner parfois les 870 hectopascales, sachant que la moyenne à la surface de la Terre est de l'ordre de 1013 hectopascales, donc c'est une très forte chute de pression. Donc là, au niveau du cyclone PAM, on n'a pas atteint les records de basse pression, mais on est quand même passé en dessous de 900 hectopascales, ce qui est beaucoup.
Oui, 300 km/h donc en moyenne pour les vents, hein, pour PAM, et des rafales à 350. Est-ce qu'on a beaucoup de recul dans l'histoire, justement, de ces phénomènes, Étienne Capiquian? Parce qu'évidemment, la mesure de ces vents était très difficile dans le passé.
Et oui, dans le passé, c'était très compliqué. La plupart des cyclones restaient en mer, inaperçus. On pouvait en apercevoir les dégâts quand ils touchaient terre, mais les plus intenses restent en mer. Et donc, c'est grâce à l'observation satellite qui s'est mise en place progressivement au cours des années 70-80 qu'on a pu observer et affiner de plus en plus les caractéristiques de ces cyclones, estimer la vitesse des vents depuis l'espace, et puis observer la trajectoire aussi de ces cyclones pour pouvoir mieux prévoir. Donc ça fait vraiment une quarantaine d'années qu'on observe ces cyclones à la surface du globe. Donc à l'échelle du climat, c'est assez peu.
C'est très peu, oui.
Voilà.
Franck Roux, comment se forment justement ces monstres des mers chaudes?
Pour former un cyclone, il y a plusieurs conditions qui sont nécessaires. C'est d'abord que la température de l'océan soit suffisamment chaude. On donne une limite de 26 à 27 degrés, mais pas seulement en surface, il faut que ça soit sur une cinquantaine de mètres de profondeur. Et ça, c'est le réservoir d'énergie dans lequel le cyclone va puiser son intensité. Et ensuite, il faut qu'il y ait des conditions atmosphériques favorables. Alors, il y en a un certain nombre. Disons qu'il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de vent. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, beaucoup de vent, parce que s'il y a trop de vent dans l'atmosphère, le tourbillon va s'incliner. Et ça, c'est pas très bon pour sa survie. Et puis, deuxième condition, il faut que l'atmosphère soit suffisamment humide pour éviter qu'il y ait des refroidissements par évaporation. Voilà, donc ça, c'est les conditions générales de formation. Et se superposent à ça des conditions, un peu plus spécifiques, c'est-à-dire des perturbations de grande échelle de la circulation atmosphérique et océanique qui vont favoriser les développements orageux à partir desquels vont se développer les cyclones.
Alors justement, en 2013, vous en parliez, Étienne Capiquian, le passage du typhon Haiyan. Écoutez ce que disait François Hollande le 27 février dernier lors de son voyage aux Philippines, aux centaines de rescapés de l'île Guyane, justement touchés par le typhon 2 ans plus tôt.
Quand je l'ouvrirai, cette conférence, je verrai vos visages, je rappellerai votre regard sur les responsabilités des chefs d'État et de gouvernement. Et je vous promets, I promise you, will succeed in Paris.
Voilà, allusion évidemment à la conférence sur le climat en décembre prochain. Franck Roux, François Hollande en train de parler de l'urgence de lutter contre les dérèglements climatiques. Est-ce que les données scientifiques permettent justement de lier le réchauffement climatique avec la puissance, le nombre de cyclones du Pacifique et PAM donc en l'occurrence ce week-end?
Alors comme l'a souligné l'interlocuteur précédent, ça fait pas très longtemps qu'on a des statistiques fiables sur les cyclones tropicaux. Il a fallu attendre qu'il y ait une couverture globale de l'atmosphère par les modèles météorologiques, par les satellites météorologiques. Et ça, c'est une trentaine d'années. Donc, on a une trentaine d'années de recul à partir desquelles on peut essayer de faire des statistiques. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas seulement une tendance éventuelle liée au réchauffement climatique, qui est un phénomène quand même à vitesse lente, mais on a également des perturbations locales. Par exemple, l'océan Atlantique est très actif depuis 1995, alors qu'il l'était moins avant, et au contraire, le Pacifique Nord-Ouest est moins actif pendant cette même période. Donc il faut bien faire attention de ne pas prendre une tendance qui serait à quelques années, avec une évolution sur quelques décennies qui serait le changement climatique.
Donc vous ne faites clairement pas le lien entre le réchauffement et l'intensité de ces cyclones?
Alors, les études statistiques qui ont pu être conduites jusqu'à présent ne montrent pas de signal caractéristique lié au réchauffement climatique en ce qui concerne le nombre de cyclones tropicaux. Mais le seul aspect sur lequel il y a éventuellement une relation, c'est sur le pourcentage d'événements très intenses. Donc on peut dire, pour simplifier vraiment les choses à l'extrême, il n'y a pas plus de cyclones qu'avant en relation avec le changement climatique, mais peut-être que les plus intenses d'entre eux deviennent encore un petit peu plus intenses. Et alors la difficulté là-dedans, c'est que les événements très intenses sont rares, heureusement, pour les personnes qui les subissent. Et donc la statistique est encore plus difficile, puisque on doit faire une étude sur un nombre limité de cas. Et ça, ce résultat-là, il semble être en accord avec ce que donnent les modèles, les simulations informatiques du climat, qui semblent indiquer cette relation, c'est-à-dire pas plus de cyclones tropicaux, mais certains d'entre eux, les plus extrêmes, peut-être encore plus extrêmes.
Pourtant, le GIEC prévoit la multiplication des événements extrêmes, justement.
Oui, c'est ça, multiplication des événements extrêmes, mais dans un contexte général d'activité cyclonique à peu près identique. Et pas de changement du nombre de cyclones, pas d'extension non plus des cyclones tropicaux, vraisemblablement pas de cyclones en Méditerranée ou aux alentours de New York, sauf comme des reliquats de phénomènes tropicaux, mais une éventualité de phénomènes plus intenses, parce que le monde étant plus chaud, l'océan étant plus chaud, il y a des réservoirs d'énergie un peu plus importants dans lesquels les cyclones peuvent puiser pour générer leurs vents intenses et leurs précipitations très fortes.
Allez Axel, pour terminer.
Est-ce que la montée des eaux qui, elle, est liée au réchauffement climatique peut avoir un impact sur les cyclones qui touchent les terres et les côtes?
Franck Roux.
Ouais. Eh bien, écoutez, le problème des cyclones, c'est pas tellement le phénomène météorologique, c'est l'exposition en risque. Et les populations côtières sont de plus en plus nombreuses, bon, à cause de la croissance démographique dans les pays en développement, à cause de l'émigration vers les rivages ensoleillés dans les pays développés. Et combiné à l'élévation du niveau des mers, il y a une fragilisation du milieu côtier. Et ce milieu côtier donc est exposé à avoir des conséquences plus importantes de phénomènes comme les cyclones qui arrivent dans ces régions-là. Donc il y a vraiment deux choses différentes, c'est d'une part le risque météorologique qui est avéré, qui existe et qui peut éventuellement croître dans sa partie la plus extrême, et l'autre aspect c'est l'exposition de populations de plus en plus importantes avec des infrastructures de plus en plus riches qui sont là au risque de ces phénomènes majeurs.
Étienne Capiquian, très vite pour terminer, une échelle avec 5 graduations hein, pour définir justement l'intensité des cyclones, donc PAM était classé 5 sur cette échelle. Est-ce qu'à l'avenir il va falloir selon vous ajouter un barreau ou pas à cette échelle?
Disons déjà que PAM n'était pas dans le haut de la classe 5, il était vraiment dans la classe 5. Il y a eu pire, comme par exemple le super typhon Type en 1979 qui faisait une taille géante de plus de 2000 km de diamètre. Donc on a encore de la marge si vous voulez. Il faudra voir dans les années futures, ce sera un sujet de recherche, à voir si vraiment les prochains cyclones intenses deviennent beaucoup plus intenses, pourquoi pas, mais pour le moment ce n'est pas d'actualité, il faudra étudier la situation dans le futur.
Merci beaucoup Étienne Capiquian et Franck Roux pour vos explications. Axel, le podcast pour la Une de la Science toujours
10 minutes tous les jours à podcaster indépendamment de l'émission pour un petit shoot quotidien.
Voilà. Et c'est gratuit, l'abonnement franceinter.fr. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une boule de feu dans le ciel alsacien. Plusieurs témoins français, suisses et allemands donc affirment avoir vu cette boule blanche suivie d'une traînée bleu-vert se déplacer dans le ciel hier soir vers 20h45. L'observatoire suisse-allemand d'Eichenberg confirme l'entrée donc dans l'atmosphère d'une météorite dont la taille et le point d'impact n'ont pas encore été déterminés. Vous pouvez voir la vidéo amateur de l'événement sur la page Facebook de la Tête au Carré. Toujours dans le ciel, l'étoile la plus rapide de notre galaxie, elle s'appelle US 708 et elle fond s'annonce à plus de 1200 km par seconde. Le Soleil, avec ses 200 km par seconde, est battu de très loin. Ce bolide qui vient d'être déniché par des scientifiques irlandais grâce à un télescope situé à Hawaï et qui fait partie de ce qu'on appelle les étoiles hyper-véloces, des astres tellement rapides qu'ils parviennent à s'arracher à l'attraction gravitationnelle de la Voie lactée. Et puis enfin, pour finir, une nouvelle piste contre les différents types de diabète grâce à l'ayahuasca, une liane psychotrope traditionnellement utilisée par les chamans indiens. Des chercheurs new-yorkais ont mis en évidence que l'armine, un alcaloïde végétal présent dans la plante, favoriserait la prolifération des cellules bêta, les mêmes cellules dont la disparition soudaine ou progressive est responsable du diabète de type 1 comme du type 2. Leur publication dans le journal Nature constitue un espoir pour les 380 millions de personnes dans le monde souffrant de diabète.